les personnes n'arrivent pas comme ça à une plainte du jour au lendemain.
La première démarche, elles demandent au secours. Elles veulent avoir une aide extérieure, sans jugement, et elles veulent s'en sortir. Pas obligatoirement dénoncer ces proxénètes.
Un constat qui s'impose d'entrée. Le procès d'un proxénète intervient parfois à l'issue d'un long chemin. La plainte ne peut exister que dans un cadre de confiance bien souvent tissé par les associations. Car tous nous l'ont dit, sortir de la prostitution du jour au lendemain, ça n'existe pas. Un travail de longue haleine s'impose donc. Un suivi sur 5, 6, 10 ans. S'en sortir, c'est avant tout rompre l'emprise. L'emprise, ce mot comme un mantra. Le préalable à toute action judiciaire, se détacher du proxénète, de ce milieu où on s'est abandonné. Un travail sur soi difficile à faire, comme l'explique Bernard Lemaître, délégué du mouvement d'Uni.
On est toujours dans une histoire de rencontre. C'est-à-dire que la prostitution, elle arrive sur des personnes qui sont vulnérables. Il y a toujours une blessure d'enfance. Ce n'est pas ça qui va créer la prostitution, parce que si on devrait être dans la prostitution toutes les femmes qui ont été abusées, je veux dire, il y en aurait des millions. On le sait aujourd'hui. Mais c'est la rencontre qui va faire basculer. Et cette rencontre, elle est toujours une histoire d'amour. C'est jamais pour l'argent au départ. C'est toujours je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et alors ça reste, si c'est mieux, une histoire qui est toujours difficile à gérer, parce qu'à un moment donné, quand il faut prendre la décision de porter plainte, il y a un tas de choses qui se réveillent.
Pour Armelle Le Bigot, présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants, ACPE, la séduction se transforme vite en cauchemar.
Donc ces recruteurs et ces proxénètes emploient, l'affection, les compliments. Elles sont enrobées dans quelque chose qui les fait rêver. Et une fois que la prostitution est installée, la plupart du temps, l'emprise ne se manifeste plus par des cadeaux, se manifeste par des violences et du coup la peur que ça entraîne et qui font que l'emprise est maintenue, c'est-à-dire mais l'emprise a changé de forme. Et l'emprise, c'est la peur.
Vu d'ici, l'emprise a des airs de boa. Peut-on vraiment s'en sortir? Pour Elda Kerli, présidente de l'équipe d'action contre la prostitution, EACP, l'espoir est possible.
Heureusement, il faut qu'elles en veulent. Mais sinon, on peut s'en sortir.
Là, il faut un travail de fond que nous menons, mais avec l'aide de sexologues qui ont l'habitude d'introduire avec beaucoup de nuances ce sujet pour essayer de leur faire comprendre à quel point ce qu'elles ont fait est dommageable pour l'esprit, pour le corps et pour l'estime de soi. Hein. Donc ça, tout un travail de reconstruction qui est lourd hein, et qui peut être interrompu par des rechutes. Hein. Il y a malheureusement beaucoup de rechutes.
Un travail de fond en attendant un déclic. Déclic qui trouve souvent sa source dans la violence. Un mauvais traitement de trop et c'est un premier pas vers la révolte. La prise de conscience par les prostituées de leur statut de victime. Un processus, faut-il le rappeler, qui s'étend souvent sur des années.
Comment elles acceptent de porter plainte? C'est ce fameux déclic individuel qui fait que tout d'un coup elles réalisent qu'elles se sont fait avoir, qu'effectivement elles ont été sans doute naïves ou fragiles. Enfin, c'est pas facile aussi d'accepter ça. Retrouver l'estime de soi, c'est terrible. Quand elles en sont passées par là, elles se détestent, elles se méprisent, elles se sentent sales, elles se sentent honteuses d'avoir accepté et supporté tout ça. Donc c'est le gros travail des psychologues et des gens qui les entourent, c'est vraiment d'arriver déjà à leur faire admettre qu'elles ont été victimes et que dans ces conditions, elles ne sont pas responsables. Et après, qu'il faut qu'elles retrouvent confiance et estime d'elles-mêmes. Ça a été bouleversant à tout point de vue pour elles, mais qu'il y a une vie après ça.
C'est seulement là qu'on peut commencer à parler de plainte, quand les filles ont commencé à s'extraire du système prostitutionnel. Si la plupart ne vont pas jusque-là, la plainte, formellement, est à prendre très au sérieux.
Dans une plainte, il y a un tas de choses qui doivent pouvoir jouer. Que la personne en arrive à porter plainte, non pas par haine, mais tout simplement pour réparation. Il faut qu'elle soit accompagnée, parce que c'est terrible de sortir du commissariat ou d'une plainte et d'avoir personne pour pouvoir en parler. Quand cette personne a porté plainte, là, elle était pratiquement tous les jours à vouloir me voir, même 5 minutes. Il faut une police qui prenne bien la plainte. Une plainte, ce n'est pas une heure. Hein. Une plainte, moi j'ai des fois été dans le bureau de la Belgique, 5 heures pour une plainte. Et puis il faut un bon avocat. Il ne faut pas un avocat qui prenne ça comme ça. Voilà. Il faut un avocat qui épouse la condition de sa cliente. Sinon, je veux dire, ça grince. C'est une opération difficile.
C'est le début d'un parcours du combattant, sans véritable répit. L'instruction est longue, 1 an, 2 parfois, et le risque de rechute n'est jamais loin, entre coups de pression et vieux démons.
Mais il peut y avoir des coups de pression, par contre, ça c'est une évidence. Mais les coups de pression, ils ne se feront pas nécessairement au moment de l'audience, ils se feront avant. C'est pas compliqué de récupérer un numéro de téléphone, d'identifier où elles sont, sans faire de généralité, mais beaucoup des victimes sont des personnes en situation irrégulière ou en très grande difficulté. Et du coup, pendant toute la période où elles auront été exploitées, très régulièrement, il y a des menaces de « mais c'est simple, si tu vas voir les services de police, si tu nous dénonces, eh bien, il y aura derrière des conséquences très graves pour toi. Et dans tous les cas, on te retrouvera. Et dans tous les cas, on te fera du mal. Et puisque tu es en situation d'irrégularité, ce sera très facile. » Elles sont dans une situation de vulnérabilité immense. Donc après, il y a tout un travail en tant qu'avocat et l'association s'en occupe aussi pour enlever ce schéma, déconstruire et dire qu'en fait, c'est pas parce qu'elles sont en situation d'irrégularité administrative qu'au procès, ça devient tout à coup elles, les personnes qui seront poursuivies. Dans le procès, elles sont victimes et on devra les écouter en conséquence.
Les causes ne sont pas seulement exogènes. La prostitution laisse une empreinte psychologique profonde sur les filles qui rechutent souvent.
Il y a toujours des traces. Mais ça, malheureusement, on le sait pour n'importe quel autre type d'emprise. J'ai été sous emprise et j'en suis sorti, youpi tralala. Les gens qui exercent cette emprise ne choisissent pas leur cible au hasard. Hein. Ils savent qu'il y a des fragilités. Et ces fragilités-là, malheureusement, elles restent. Hein. Elles font partie de la personnalité, elles font partie de l'histoire, peut-être, de ces gens. Et du coup, c'est assez facile de redémarrer une emprise quand on l'a exercée et qu'on a en plus appris à connaître la personne qui est victime. Donc on sait quels sont les arguments, on sait comment la faire craquer.
C'est l'heure du procès. Les avocats des parties civiles sont souvent seuls à la barre. Par peur des représailles, mais aussi pour éviter de raviver des souvenirs douloureux, certaines prostituées préfèrent ne pas venir. Pour les autres, il faut s'accrocher. Témoignage avec Maître de Dainville, avocate de l'EACP.
C'est excessivement dur. C'est excessivement dur pour elles. Et en plus, il faut avoir en tête que si elles ont la force de rester jusqu'au plaidoirie de la défense, là, c'est vraiment très, très dur ce qu'elles peuvent se prendre parce que c'est absolument pas une critique à l'endroit des avocats de la défense. Nécessairement, quand on est en défense, parfois, on en vient un petit peu à minimiser, à soulever des contradictions dans les propos, dire qu'en fait, c'est quand même un petit peu flou, c'est pas vraiment établi parce que nécessairement, elles, quand elles témoignent, parfois, elles témoignent des années après. Quand l'instruction est longue, quand elles refont leur témoignage à l'audience, c'est des années après. Pendant l'instruction, parfois, c'est que c'est trop à vif et que c'est flou. Et puis, quand il y a eu toute une ribambelle de faits, bah forcément qu'on en vient à se confondre par moment dans des détails, sauf que la défense va jouer sur les détails pour un peu décrédibiliser. Et là, c'est très, très dur pour elles à encaisser parce qu'en fait, qu'on puisse remettre en question les faits qu'elles ont vécus, c'est très lourd. Ça fait aussi partie du travail de leur expliquer que ça va se passer comme ça, que chacun fait son travail, que pour autant, nous, on fera notre travail aussi de les défendre. Mais c'est pas facile parce que c'est la défense qui a la parole en dernier. Donc, ce qui reste dans leur tête, c'est les paroles de la défense.
Le marteau retentit et c'est le verdict. Début juillet, dans une salle d'audience, la sanction est exemplaire.
Elles ont eu ce courage et les proxénètes ont été condamnées à 15 ans. Donc là, on est quand même sur du lourd. C'est assez rare, honnêtement. Et là, elles étaient soulagées. Elles étaient contentes. Après, le problème, c'est qu'elles sont soulagées pour les quelques années à venir. Mais il y a un moment où ils sortiront de détention. Et ça les terrifie. C'est un soulagement qui est en suspens, en fait. Qui est conditionné à une sortie de détention. Qui, par le biais des aménagements de peine, des réductions de peine, peut se faire et se fera nécessairement avant 15 ans. Et puis, il y en a qui disaient qu'elles auraient préféré qu'ils soient morts, que de toute façon, 15 ans, ce n'était pas à la hauteur, quoi.